Bonjour à tous, chers auditeurs, et bienvenue dans ce quatrième épisode du Forumcast, le podcast de Forum. Putain, je vais faire l'erreur à chaque fois, c'est pas possible. Je suis l'incoercible Addy Boy. Une fois de plus, je serai votre hôte pour cette session, et je suis encore une fois accompagné de mes deux acolytes, l'incorruptible Metal Neo.
Bonjour.
Et l'incorrigible Travis.
Bonjour.
Au sommaire de cette émission, nous allons donc aborder les séries, tout d'abord, avec notamment ZOA et Agents of S.H.I.E.L.D. saison 4,
oui.
Si je ne me trompe pas.
Tout à fait.
Nous aurons ensuite une grosse partie qui concerne Logan, le dernier film issu de l'univers X-Men avec notre ami Hugh Jackman. Mais avant toute chose, nous allons aborder nos actualités et je vais laisser du coup Metal Neo commencer.
Ok. Moi pour ma part, qu'est-ce que j'ai fait un peu ou qu'est-ce que j'ai découvert cette semaine? Suite au dernier podcast qu'on a fait ensemble, je me suis mis à Imposteur, puisque Travis avait émis la possibilité d'une série sympa avec un certain potentiel, donc ça a éveillé ma curiosité, donc je suis allé voir. Bon, pour le moment j'ai regardé que le premier épisode. Mon avis est assez mitigé. Je dois dire que j'ai pas trouvé ça exceptionnel, mais assez intéressant quand même pour me donner l'envie de continuer un petit peu. Je sais qu'il y a trois de sorties pour le moment.
Tout à fait.
Et je pense que voilà, là quand j'aurai un peu de temps, je vais les regarder pour voir quand même où ça va. Parce que le pitch de départ est plutôt pas mal. Je sais pas trop sur quel pied danser quand même. Moi, il y a des choses qui me dérangent, c'est que tantôt des fois c'est humoristique, tantôt c'est dramatique, tantôt ça essaye de tirer l'alarme. Voilà, j'arrive pas à clairement déterminer quelle est la lignée de cette série, ou du moins de ce premier épisode. Mais après, voilà, ça joue sur un peu les arnaques, ça donne envie peut-être un petit peu d'essayer de savoir ça. Et ça m'a beaucoup fait penser à un film qui est sorti il y a un bon moment maintenant. Alors, le nom en français, je vais pas m'en rappeler, c'est Heartbreakers, avec Jennifer Love Hewitt et Jamie Lee Curtis.
Oula, non.
C'était un
non
film.
Merci.
Non merci. Pourtant tu devrais, hein, parce que Jennifer Love Hewitt dedans.
Certes, mais pour le coup.
Ah ouais. Pourtant le concept c'est exactement le même. Hein. C'est vraiment ce concept de femmes qui font des arnaques amoureuses, on va dire, pour essayer de soutirer soit des fortunes, soutirer quelque chose. Bon, c'est là sur le coup le film est très comique. C'est une comédie romantique. Plutôt pas mal faite, hein, pour l'époque, c'est un vieux film maintenant, mais bon, il y a ses avantages à le re-regarder quand même, hein, comme j'ai dit, Jennifer Love Hewitt. et voilà, donc ça m'a beaucoup fait penser à ça, mais pas du tout dans le même style. C'était parfois humour, parfois pas du tout. Voilà, donc comme je dis, j'ai peut-être pas assez de bagages pour juger une série entière, mais voilà, ça m'a quand même donné envie d'essayer de continuer un petit peu, de regarder les prochains épisodes.
Ok, histoire.
Toi, Travis, tu peux peut-être en parler un peu plus.
Je suis content d'avoir converti une personne un petit peu, même si effectivement c'est pas la série de l'année,
non,
mais c'est un très bon divertissement. Enfin, pour l'instant, c'est un bon divertissement, voire un très bon divertissement,
voilà.
Pour moi en tout cas.
Voilà. Et... moi, j'irai pas jusque là pour moi, mais voilà, ça m'a donné que c'est pas un négatif non plus. C'est pas genre j'ai pas envie de voir la suite. Je vais voir avec les deux prochains épisodes si ça continue.
Le ton est original, je trouve, et c'est ça qui m'a convaincu.
Moi, ça m'a. Enfin, tu parlais de cette scène avec la corde.
Oui.
Voilà.
La tentative de suicide.
Ouais, je l'ai vu. Ça m'a fait sourire, mais.
Non, mais j'avais pas ri tout haut non plus.
Non, mais je c'est pas de ça que je parle, mais c'est que ce côté décalé qui est pas constant au travers des épisodes non plus, ça fait que ça m'a un peu choqué de voir ça comme ça. Et de temps en temps, il y a des trucs qui sont clairement à vocation humoristique, même si on s'esclave pas de rire. Mais il y a des situations un peu cocasses, un peu bizarres. Et le reste, c'est très dramatique, c'est vraiment très c'est la pire chose qui nous arrive, c'est ceci, c'est cela.
Ouais, le pilote est un peu particulier parce
qu'effectivement,
c'est centré sur cet événement malheureux, on va dire.
Ouais.
Après, c'est cet aspect un peu mélange des deux genres qui m'a aussi attiré. Mais je comprends, effectivement. Le pilote est vraiment assez centré, justement, par le tentative de suicide, etc.
Ouais.
Alors que le ton de la suite est, je pense, un peu plus léger.
D'accord.
Si tu regardes, tu nous confirmeras.
Toi, tu as vu
les trois premiers. D'accord. Et effectivement, il y a un changement de... ça passe un petit peu plus du côté léger.
Léger.
Sans être complètement...
Parce que ça se sent, hein. Ça se sent dans le premier qu'il y a cette aptitude à peut-être aller vers le léger. Mmh. Mais j'ai trouvé ça soit pas appuyé, soit malmené dans quelque chose qui devrait plutôt être dramatique. Donc je savais pas, voilà, maintenant si tu me confirmes que ça va être de plus en plus léger... Ça peut peut-être devenir
c'est
beaucoup mieux.
C'est un pilote. Regarde le deuxième au moins et tu nous diras si.
Je vous tiendrai au courant la prochaine.
C'est particulier
fois.
Comme genre. Voilà.
Ouais. Okay.
Ouais, il peut y avoir de grosses différences entre le pilote d'une série et les épisodes
très souvent.
De toute façon, quelque chose d'assez récurrent. Ok, merci pour ton actu, du coup, Metal Neo. Travis, une petite actu.
Mon actualité, c'est The Good Fight, que vous n'avez pas regardé, dont je vais en parler tout seul.
Plus.
C'est le spin-off de The Good Wife. Donc il faut aimer The Good Wife, mais
c'est un peu la saison des spin-offs en ce moment, non?
Bah c'est de plus en plus la saison des spin-offs et des remakes et des
là il y a vraiment une tendance au spin-off. Je crois il y a Blacklist aussi en ce moment.
Blacklist Redemption qui est sorti, qui est un spin-off de Blacklist, de The Blacklist tout court. Donc c'est vraiment, mais de toute façon c'est pas vraiment nouveau parce qu'il y a toujours eu des spin-offs de tous les CSI, les experts, NCIS, il y a eu des spin-offs.
Mais là, ça commence à toucher des séries qui sont un petit peu plus spécifiques et plus intéressantes à la base que des séries.
C'est un peu plus les séries de genre, j'ai envie de dire. C'est pas le mot exact, mais vous me comprenez. Plutôt que les séries policières et compagnie. Et là, c'est le spin-off de The Good Wife, fait par les mêmes créateurs, avec Christine Baranski, qui était dans The Good Wife, et avec Rose Leslie, de Game of Thrones.
Ah oui, Ygritte.
Voilà.
La petite rousse.
You know nothing, Jon Snow.
You know nothing. Tu ne sais rien, Jean Neige.
Exactement.
En version québécoise. Ah oui.
Donc voilà, j'aime beaucoup parce que j'avais un petit peu arrêté The Good Wife par faute de temps. Mais The Good Wife était déjà une très bonne série, pas juste une série d'avocats, mais une série qui parle sur des sujets contemporains et qui les aborde dans le fond et intelligemment surtout.
Et là c'est vraiment le pitch de celle-là ou l'intérêt de ce spin-off.
Le pitch de The Good Fight, c'est en fait toujours basé sur des avocats. Rose Leslie incarne une avocate. Enfin, une toute nouvelle avocate qui débarque dans une grosse boîte dont les parents sont ils gèrent les hedge funds, les trust funds, je sais même pas comment dire en
les fonds de pension.
Alors, les fonds de pension. Yeah. Et sauf que apparemment derrière il y a une arnaque.
Une grosse arnaque.
Et il y a plein de gens ruinés. Je spoil un peu le pilote, je suis désolé, mais en même temps ça fait partie du pitch. Et il en découle pas mal de choses et donc il y a ça en arc derrière. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé, etc. Les conséquences pour elle, qui elle n'a rien fait, mais qui se voit, qui devient un visage un peu public et qui subit les conséquences, etc. J'en dis pas plus, mais c'est vraiment dans la veine de The Good Wife avec la même qualité d'écriture et le même intérêt et toujours ces thèmes contemporains abordés. La première scène, c'est l'actrice principale, Christine Baranski, qui regarde la cérémonie d'inauguration de Trump.
Ah ouais. Voilà. Ah oui, donc c'est très contemporain.
Très contemporain.
Dans l'air du temps.
Je pense quand même que ça a dû être filmé un petit peu après.
Ils ont peut-être filmé les deux versions en fait, et en fonction de qui a gagné,
c'est très possible, d'autant plus que le personnage est assez un petit côté féministe à la base.
Ouais.
Donc ça aurait pu être intéressant avec Hillary Clinton aussi. Et là, pour le coup, voilà, elle dit rien en regardant l'inauguration, mais sur son visage, on comprend pas mal de choses et c'est un clin d'œil sympathique. Il y a aussi beaucoup de clin d'œil à The Good Wife. Donc voilà, à conseiller aux fans de The Good Wife.
Ok, ok.
Super.
The Good Fight, donc. Du coup, ce qui me concerne, j'ai profité en fait que M6 diffuse en ce moment l'une des dernières saisons, si ce n'est la dernière, d'Elementary, pour reprendre la série, tout simplement. Donc, Elementary, pour ceux qui ne connaissent pas peut-être, c'est une série centrée sur le personnage de Sherlock Holmes, incarné par Johnny Lee Miller, qu'on a déjà vu dans Trainspotting et qui était l'un des méchants. D'une des saisons de Dexter, je sais plus trop laquelle, la cinquième je crois.
Probablement, je peux
voilà.
pas
dire. Et qui du coup s'exile à New York où il est suivi par le docteur Joan Watson, incarné par Lucy Liu.
Qui est donc une femme et ça avait fait un petit peu scandale.
Voilà, le docteur Watson est une femme. Et
c'est pareil, c'est là dans un esprit un peu moderne, puisque ça passe de nos jours.
C'est dans un esprit extrêmement moderne, comme la série Sherlock de la BBC avec Benedict Cumberbatch et Martin Freeman. Mm-hmm. Sauf que là, ils abordent plus frontalement les problèmes de drogue de Sherlock Holmes, qui est clairement décrit très souvent... comme un ex-junkie qui était accro à l'héroïne. Donc la série prend le parti de changer la catégorisation de plusieurs personnages, notamment donc le personnage d'Irene Adler, qui est l'une des la femme dont tombe amoureux Sherlock.
Et qui est excellente dans Sherlock, la série. Irène Adler.
Dans la série
de Cumberbatch.
Ah oui, dans celle de Cumberbatch.
Dans celle de Cumberbatch.
Oui,
Cumberbatch.
Ouais. On la voit que dans un épisode, c'est un peu dommage.
On
mais
la voit
ouais,
dans,
très,
dans
très...
au moins deux épisodes, je pense. Hein.
Bah, elle fait un. Elle,
ah, peut-être
elle
pas,
fait une caméo dans la saison 3 quand Sherlock est dans le... à la limite du coma, mais sinon, on la voit que dans le deuxième épisode de la saison 2, je crois. Ou le premier. Et donc voilà, vous voyez notamment le personnage d'Irene Adler, le personnage du professeur Moriarty aussi, qui dans Elementary est...
C'est un pas spoiler, parce que... Là,
ouais, je spoile pas, mais qui n'a rien à voir avec ce à quoi on pouvait s'attendre. La série introduit aussi donc, le frère de Sherlock et son père. Donc le frère Mycroft Holmes est incarné par Rice Ifan, un acteur britannique qu'on a vu notamment dans Good Morning England.
Si je dis pas de bêtises, il était dans la série Berlin Station, qui est très très bonne série aussi.
C'est un acteur britannique, ouais, très, okay. Très coté. Enfin,
je pense que c'est lui, je vérifie.
Très très bon acteur. Et le père donc, de Sherlock et de Mycroft, Morland Holmes, est incarné par John Noble, qu'on a vu dans Le Seigneur des Anneaux et dans Fringe. Voilà, l'un des personnages principaux de la série. Donc voilà, Sherlock, c'est... Elementary, c'est très sympa, c'est... Comment dire, il y a une légère trame principale qu'on peut suivre, fil conducteur, voilà, qui relie chaque saison. Mais dans l'ensemble, c'est des épisodes séparés les uns des autres, donc ça
une intrigue par épisode.
Voilà.
Alors, une enquête. Voilà.
J'aime bien dire que c'est une série qu'on met en fond.
Ouais.
En fait, c'est
une bonne série qui avait été beaucoup critiquée au début. Et au final, il y a beaucoup de gens qui s'y sont convertis et qui aiment beaucoup maintenant. Et il y a des critiques de plus en plus bonnes.
Élogieuses,
bon, ces derniers temps, j'en entends moins parler. Mais globalement, c'est une bonne série. Le peu que j'ai regardé, ne serait-ce que le générique, qui est très sympathique.
Oui, le générique est cool. Ouais.
Et c'est une bonne série, une bonne surprise. Parce qu'effectivement, au début, c'était un petit peu... les gens n'en parlaient que pour dire que Watson était une femme,
ouais,
etc.
Voilà.
Donc c'était un peu dommage. Et Johnny Lee Miller est un... très bon acteur.
Très,
d'ailleurs,
bon acteur.
Je crois qu'il est très proche de Cumberbatch et qu'ils ont fait une pièce de théâtre à Londres ensemble.
Oh,
ils étaient que tous les deux et qui devait être assez impressionnante à voir.
Oui, ouais, ça devait être sympa, ça. Et du coup, voilà, ouais, série très sympathique qui, pour moi, vaut beaucoup pour l'interprétation donc, de Johnny Lee Miller, que j'adore. C'est un mec très, très cool, quoi. Qui rend bien dans le personnage de Sherlock Holmes. Donc, je pense qu'on a fait le tour de nos actus respectives. On va pouvoir passer à la première grosse partie de ce Forumcast, numéro 4. On va discuter série avec donc The OA, en premier lieu.
Ouais. Là aussi, je suis content d'avoir converti deux personnes. Je l'avais mentionné très brièvement lors du tout premier podcast,
ouais.
Si je n'ai pas de bêtises.
Ouais, c'est exact.
Et moi, ça faisait partie de la liste de ceux à voir, hein, mais c'est vrai qu'à l'époque... Pas trop le temps ou quoi, mais bon, je me suis vite rattrapé et il me semble que toi, D-Boy, tu en fais de même en ce moment.
C'est ça, oui, absolument. Pour l'instant, je n'ai vu que le premier épisode hier soir, ça m'a complètement charmé, conquis, et je prévois déjà de regarder donc, les 8 épisodes au complet le plus rapidement possible. Qu'on puisse faire un gros débrief peut-être, je sais pas.
Ouais.
Pourquoi pas ? Ton sentiment sur le pilote ? Qui est un peu particulier parce que
c'est
trois quarts du pilote.
T'as encore rien vu d'autre parce que c'est vrai que il y a ce point charnier. Enfin, il y a vraiment.
Le deuxième épisode est un peu crucial pour comprendre un petit peu ce qui se passe en partie. Mais déjà là, tu as une bonne idée de l'ambiance et du ton de la série.
Bah, j'aime beaucoup l'ambiance. Le personnage principal, donc je crois qu'il est incarné par Britt Marling, c'est ça,
ouais.
Exactement.
Qui fait un peu tout sur la série.
Elle a
créatrice, productrice.
Voilà, elle est coproductrice, productrice, exécutrice.
Elle est impliquée à tous les niveaux avec le réalisateur de tous les épisodes.
On sent que c'est son bébé, sent aussi qu'elle a fait de ce qu'elle voulait avec son rôle et avec notamment le scénario. Enfin, je trouvais que ça se ressentait vraiment. On sent que c'est fait aussi par une actrice, par moment. On en parlera un peu plus tard quand tu auras vu la suite.
Ouais,
c'est pas faux.
Mais il y a des choses qui sont vraiment qui trahissent le fait qu'il y a un point de vue d'actrice derrière qui est évident. Et très intéressant, très bien traité, parce que souvent on tombe dans des films d'auteurs.
Ouais.
Là, c'est presque une série d'auteurs pour
c'est
moi,
vrai.
Mais
y a,
c'est une
y a
série
vraiment
d'auteurs
un feeling.
Passionnante qui n'a pas les défauts du, enfin, du moins les clichés et les défauts
qu'on peut retrouver
des films d'auteurs ou des séries d'auteurs, même s'il n'y en a pas tant que ça.
Ouais. Donc oui, vraiment charmé, l'univers qui se met en place assez lentement, quoi. On se tape un gros mystère dès le départ avec cette fille donc, qui a disparu pendant 7 ans, qui réapparaît, enfin qui a disparu aveugle et qui réapparaît en ayant retrouvé, recouvert la vue. Donc déjà, voilà, qu'est-ce qui s'est passé
et où, elle était,
où elle était, qu'est-ce qui a bien pu lui arriver pendant
ces 7 ans. C'est vrai qu'une fois de retour, elle... ne divulgue rien, on n'en
sait
pas, rien.
On ne sait pas. Mais donc, la relation qu'elle développe avec les gens qu'elle croise, qu'elle rencontre, ça, j'ai trouvé ça super intéressant. C'est très, très bien amené, c'est très bien fait. Notamment tout le passage avec la prof, en fait, dans le premier épisode, quand elle essaie de convaincre la prof d'un de ses acolytes qu'elle ne doit pas le renvoyer. Enfin, c'était limite émouvant, quoi. Mmh. Très bien fait. Pour la petite anecdote, j'ai commencé à regarder l'épisode au bureau, entre midi et deux, et au moment de la scène de sexe explicite qui est entre deux gamins, là, heureusement qu'il n'y avait personne, parce que d'un coup je me suis dit, oh putain, mais merde, mais qu'est-ce qu'ils vont croire encore.
C'est vrai c'est qu'elle bien, est assez explicite, hein, cette scène. Elle est,
ah ouais, c'était...
Elle est sans concession, et plutôt, voilà.
C'est un peu la marque, enfin... C'est pas la marque de fabrique Netflix.
C'est la liberté c'est... Netflix.
Voilà.
C'est ce que permet Netflix.
Je trouve que Netflix, du moins généralement les séries Netflix, parce que c'est pas forcément Netflix, mais bon, c'est les gens derrière, c'est les créateurs, les réalisateurs, etc. Mais c'est généralement, je trouve, mieux géré que certaines séries HBO, pour ne pas les citer. Où on a l'impression, on a du mal à ne pas penser, en tout cas c'est mon cas, qu'il y a de la nudité parce qu'il faut presque
nudité,
un quota.
Exactement.
Voilà,
c'est
devenu... Ça me dérange pas. Hein, je vais pas faire ma prude, mais loin de là. Mais pour le coup, c'est vrai que
c'est
un peu dur
ça.
À.
C'est vrai. Hein. Maintenant, on a l'impression que ça devient plus un prétexte d'utiliser ça parce qu'on sait que la violence, le sexe,
fait du buzz,
c'est
et ça ramène
le Game
du...
of Thrones.
Ouais,
c'est,
voilà.
C'est Vinyl même, je crois. C'était une série HBO où
il
y avait
quand même
un peu de sexe. Donc. C'est vrai que c'est devenu un peu un outil qu'on utilise par-ci par-là et qui est peut-être plus forcément utilisé pour l'histoire, mais plus pour l'audimat.
En même temps, ça s'explique par le fait que les chaînes comme HBO sont les rares chaînes qui n'ont pas du tout de censure et coup, peut-être que c'est un exutoire aussi
à
grande échelle.
Mais voilà, le contre-argument, c'est que on va pas appeler ça une chaîne, hein, c'est pas une chaîne de télé, mais c'est la plateforme Netflix permet autant de liberté, mais aucun contrôle non plus. Et là, c'est vraiment à la place de ceux qui font leur produit de se dire est-ce que ça a un sens ou pas. Et jusqu'à présent, de tout ce que j'ai vu, parce que j'ai pas forcément tout vu qui a été produit par Netflix, mais je trouve que c'est fait intelligemment. C'est-à-dire qu'une scène de nu ou un acte violent est toujours utilisé
à bon escient
et pour l'intérêt de l'histoire et non pas pour celui de l'audimat.
C'est vrai. Bon, après, je pense pas que ce soit HBO et compagnie qui imposent vraiment
non plus,
ça, mais voilà, je sais pas. Peut-être que c'est inconsciemment le fait que ce soit HBO, les scénaristes se disent qu'il faut un petit peu en mettre, je sais pas. C'est difficile à dire.
Elles doivent être rigolotes, leur réunion de pré-production pour la rédaction de tous les synopsis d'épisodes ou des scripts et tout.
Alors là, dans cet épisode, on n'a pas de scène de nu, là. Va falloir s'activer, les gars.
What about some boobs, Roger? Yeah, you got it. Boobs, big boobs. Ouais, voilà,
il y a eu beaucoup de parodies sur les séries HBO à ce niveau-là. Et avec Alda, on en rigolait souvent, notamment pour la série Banshee. On était parfois surpris, on en rigolait, on se disait tiens, il n'y a pas eu de scène de sexe, pourquoi, qu'est-ce qui se passe,
et dans la minute
bien,
qui suit
et c'était rare effectivement quand il n'y en avait pas du tout, surtout dans les premières saisons, mais là pour le coup c'était dans le genre de la série où violence et sexe
violence,
faisaient
c'est...
partie
ça fait partie
du...
de l'ADN quoi,
voilà,
de
c'est, ça, c'est ça.
Faut vraiment que je m'y mette à cette série. Pas que pour le sexe et la violence, hein. Pareil qu'il y a des très belles images aussi.
Et c'est très bien filmé, la réalisation est au top. Et d'ailleurs, c'est fait par Greg Yatens, qui était sur House avant, et par Alan Ball de True Blood. Donc il y a du beau monde derrière, et c'est très bien réalisé. Très bien produit aussi, surtout. Ouais. Pour une série de ce genre-là, c'est pas toujours le cas. Et il y a des bonnes histoires. Des bonnes histoires. C'est parfois un peu inégal, mais ça vaut le coup d'être regardé, effectivement.
D'accord, ouais, Donc voilà, pour revenir sur The OA, vous avez vu la série en entier ?
Tout à fait.
Tous les deux.
Ouais. On en est très contents.
Voilà.
Je pense que
j'ai
pas été déçu à un seul moment.
Moi non plus. Si, j'ai été déçu à un seul moment, mais ce n'est pas du tout pour l'histoire ou quoi que ce soit. C'est juste que, habitué à voir plusieurs épisodes de 50 minutes, il y en a un qui dure 30 minutes.
Ah oui, oui, tu m'en
et
as parlé.
J'ai vraiment été extrêmement choqué de voir à quel moment se terminait l'épisode. Je me disais, mais non, ça, c'est plus long normalement l'épisode, et qu'est-ce qui se passe? Mais bon, encore une fois, liberté Netflix.
Bah c'est ça,
cet
moi,
épisode
ça
n'avait pas besoin d'être
c'est
plus
génial.
Long.
C'est génial, il se moque oui. des...
C'est, là, je dis ça, je ris de moi-même. Hein. C'est
pas,
juste que voilà,
pas,
je m'attendais pas à ce que l'épisode dure 30 minutes, et voilà, et j'ai pesté sur ça, mais voilà, il n'y a rien de négatif à ce niveau-là, c'est plus drôle qu'autre chose. Mais ouais, pas du tout déçu. On va pas spoiler. On attendra peut-être que tu aies tout vu pour peut-être en refaire une analyse. Mais c'était une très belle expérience. Franchement, j'ai vraiment apprécié cette série. Il y avait tous les traceurs que j'aime bien, le côté mystère, le côté un peu.
Il y a un côté poétique aussi qui est très fort et
ouais,
très réussi.
Non, j'ai bien aimé. J'aimerais bien qu'on en reparle quand t'as
quand j'aurai terminé. Ouais. Donc
du
voilà,
coup,
définitivement un bon plan pour ouais. The Away. Et du coup, notre deuxième série du jour, Agents of S.H.I.E.L.D., saison 4.
Ouais, là, pour le coup, c'est... Moi, je voulais un petit peu en parler parce que, comme peut-être beaucoup d'entre vous ont pu le voir, le dernier épisode m'a surpris. Je dois avouer que depuis la mi-saison, c'est pas vraiment une mi-saison, mais depuis... depuis la coupure à Noël, la reprise de Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. m'avait, si ce n'est déçu, je m'ennuyais. Vraiment, les épisodes s'enchaînaient, il n'y avait rien de super intéressant, la trame n'était pas si exceptionnelle. Enfin, j'aimais pas trop où ça allait. Moi, vraiment, je commençais à m'ennuyer par rapport à d'autres saisons qui étaient vraiment super. Là, vraiment, je ne savais pas trop où ça allait, ça ne me plaisait pas trop. Et il y a eu l'épisode de la semaine dernière.
Le 15e épisode.
Le 15e épisode. Et là, un beau retournement de situation.
Plusieurs,
et là,
même. Plusieurs retournements de situation.
Plusieurs même, voilà. Mais au sein de l'épisode, vraiment un retournement qui te fait comprendre tous les autres épisodes où je m'ennuyais.
D'accord.
Alors, si je regarde ces épisodes, je vais toujours autant m'ennuyer.
Mais il y a une justification.
Y a une je comprends maintenant où est-ce qu'ils essayaient de nous amener. Et le potentiel après cet épisode est grand. Je sais absolument pas si ça va être à la hauteur de ce qu'on peut espérer. Maintenant, ça, c'est la nouvelle inconnue. Mais du moins, cet épisode-là remet un petit peu... ça chamboule un petit peu tout et tu dis, tiens, voilà, maintenant, après ça, ça peut être intéressant. Je fais un parallèle. C'est par exemple le dernier épisode de la saison de Flash de l'année dernière avait un petit peu tout retourné. Et le début de la nouvelle saison de cette année faisait référence à Flashpoint, qui est un très gros événement de l'univers DC. C'était super intéressant. Malheureusement, ils ont fait ça que sur un seul épisode, même si les événements de Flashpoint ont toujours
des répercussions
et tout ça. Mais voilà, ça peut peut-être être pareil là ici avec Marvel. Ça va peut-être pas découler sur quelque chose de très long, mais le potentiel est intéressant et vraiment le dernier épisode, je l'ai vu tard un soir, je me disais bon, ça va être encore un épisode lambda. Et puis au fur et à mesure de l'épisode, c'était ah ouais, non mais non, ah ouais, ça, c'est intéressant.
Ça monte.
Ah ouais, jusqu'à arriver au final où tu dis ok, là il y a du potentiel.
D'accord.
Donc content quoi, vraiment, j'espère la suite aussi bonne. Je sais pas si ce sera le cas, mais ça m'a réconcilié avec cette deuxième partie de saison qui commençait un petit peu à stagner pour moi.
J'avais aussi remarqué cet épisode en vérifiant, on va dire, les notes des épisodes sur le site, et j'avais vu qu'il y avait beaucoup de bonnes notes. Il y a Shingo 33 qui a mis 18, Van Len 18, Lucas Wood 20,
ah ouais.
Wheelers 17. Ça faisait longtemps effectivement qu'il n'y avait pas eu des notes aussi élevées
sur cette série.
Ouais. Et j'avais personnellement arrêté complètement Marvel depuis...
Ça faisait un moment que j'avais arrêté, toi.
J'avais pas vu cette saison 4, je l'avais pas commencé du tout, j'ai arrêté à la fin de la 3. J'étais vraiment pas emballé par Ghost Rider.
Ah, pour ça, c'était pas mal, ça, moi j'avais bien aimé quand même.
Moi, je comprends pas ce personnage, je l'aime pas, on en parlera, faudra en parler de façon extensive, mais c'est purement subjectif pour le coup, c'est juste qu'il m'intéresse pas, je trouve pas l'intérêt, je trouve pas crédible, etc. Mais c'est vraiment que mon avis.
Traumatisé par les films avec Nicolas Cage.
Je les ai même pas vus, je sais pas. mais je les ai pas vus parce que déjà à cette époque, ça m'intéressait pas. Ça me parle pas, je sais pas. Et du coup, voilà, j'avais même pas tenté. J'avais trouvé les cliffhangers de la saison 3 peu intéressants, avec notamment Ada qui est un petit peu introduite à la toute fin.
Ouais.
Et là, effectivement, en parlant avec Metal Neo et en lisant ses avis, je me suis remis à la deuxième partie de la
dernière saison.
La dernière saison. D'ailleurs, j'ai pas trouvé les épisodes vraiment ennuyés ou quoi que ce soit. Je les ai trouvés moyens, voire moyens plus. Mmh. Intéressant, ça allait, c'était divertissant, on va dire. Et effectivement, le dernier épisode était vraiment plein de très bons rebondissements. On va pas les citer, mais voilà, au niveau de Fitz et etc. Et Simmons, entre autres, tout ce qui est trouvé, on va dire, au niveau de bah, c'est pas Sky, mais c'est Daisy à chaque fois, je me trompe.
Ouais.
voilà, à ce niveau-là, où il y a plusieurs choses de trouver à un même endroit. Ça, c'était des bonnes surprises, comme on n'en avait plus du tout dans Marvel ouais. depuis un certain temps.
Et même le final, les quelques petites dernières images du final, pas, encore une fois, voilà, je ne vais pas prendre le risque de spoiler pour les personnes qui n'auraient pas encore regardé cet épisode ou la série. Voilà, il y a un twist à la fin qui te fait dire que la prochaine partie de la série peut prendre une tournure différente où tous les personnages vont pouvoir s'exprimer différemment de leur rôle habituel. Et ça, je trouve ça intéressant. Ça permet de voir une autre facette peut-être de ces personnages. Si c'est exploité de cette manière-là,
oui,
hein, encore
oui,
une fois...
Oui, c'est vrai, mais personnellement, ça m'attire moins que ce que j'ai vu là parce que je pense que ce qui va se passer dans ces épisodes-là n'aura aucune conséquence sur les épisodes d'après. Ça va durer deux, trois épisodes. Ça va être peut-être marrant sur le coup,
oui,
certes,
voilà.
Mais il n'y aura aucune influence. Divertissant, mais il n'y aura aucune influence sur la suite.
Il y a des chances.
C'est un petit peu dommage et c'est ça que je regrette. Même si, effectivement, là, il y a plein de choses... Et en plus, il y a plein de choses qui sont balancées sur cette toute fin. On revoit les personnages dans un certain cadre, on va dire. Mais je trouve que c'est un peu balancé de façon aléatoire pour amener des choses intéressantes dans ces épisodes-là. Mmh. Bon, c'est un peu regrettable, mais en tout cas, ça attise la curiosité, c'est sûr.
Ouais. Bah, c'est bien pour une série comme ça, qui après 4 saisons, et qui à chaque fin de saison, il y a toujours un petit flottement de est-ce qu'il y en aura une suivante, est-ce que ça va continuer.
C'est vrai.
Voilà, c'est bien là, au 15e épisode, d'essayer de se renouveler, de faire des épisodes aussi forts, pour essayer peut-être de s'assurer encore un avenir, quoi. Parce que, voilà, moi, c'est une série que j'ai toujours bien aimée, qui a souvent des bas, mais qui a souvent aussi des hauts, surtout dans les premières saisons. Elle a beaucoup de pics assez forts que j'apprécie beaucoup. Donc, voilà, moi, s'ils continuent à me produire un peu du contenu comme ça, des retournements de situation aussi intéressants, voilà, et que ça peut assurer des saisons suivantes
de qualité,
ben, moi je suis toujours pour, quoi. Voilà, donc ça s'annonçait pas trop bien pour moi, encore une fois. Moi, je commençais un petit peu à m'ennuyer.
Je
alors
pense que tu n'étais pas le seul à priori.
Voilà, je pense, mais c'est pas mon cas en général. Je suis assez bon client quand même, et pour que moi je commence un petit peu à m'ennuyer, c'est que vraiment ce qu'ils proposaient commençait à être assez faiblard. Et là, le dernier épisode vraiment m'a fait du bien. Donc je vais pas dire confiant, mais je suis dans l'attente de la suite pour qu'elle soit de ce niveau-là, hein, jusqu'à la fin de saison. Voilà.
Très bien.
Ok, tout est dit, je pense, sur Marvel.
Ouais. Juste, combien d'épisodes sont prévus au total ?
Dans une série de Marvel, ouais, en général, ça va aller vers les 20-22.
Je me demande si ce ne sera pas moins là, parce que la mi-saison était à 8. Et donc, je me demande si on ne sera pas sur du 16. On confirmera, puis on le mettra dans
le passage. Ce serait bizarre quand même, 16.
Je ne serais pas franchement étonné, mais à confirmer. Ouais. D'accord. On verra.
Enfin, moi, ce qu'ils aient fait délibérément le choix de faire une petite partie de première saison pour avoir une deuxième partie plus longue. Et...
Ce serait une première, mais pourquoi pas. Mais me paraît bizarre quand même.
Une scission parfaite au milieu, je sais pas.
À suivre. Faire à suivre, donc. Voilà. Eh bien, on va pouvoir entamer la dernière partie de l'émission.
À chaud, en plus.
À chaud, donc oui, nous avons vu Logan hier soir en avant-première sur Aix-en-Provence, donc en version originale sous-titrée, qui plus est, ce qui ne gâche rien.
Ouais.
Donc voilà, Logan, qu'est-ce qu'on peut en dire ?
On va préciser que là, pour le moment, on va en parler sans spoil.
Voilà.
Exactement.
Oui.
Et on précisera,
on va donner notre avis,
clairement, quand on passera à la partie spoiler, qu'on vous conseille fortement d'écouter une fois que vous avez vu le film.
Ouais, exactement. Donc voilà, pour le moment, rassurez-vous, on va rien spoiler, mais attendez-vous à la fin, on le précisera. On va quand même en parler un peu plus en détail, en précisant ce qui s'y passe, ou quoi, et assez librement. Donc si vous voulez pas écouter, faites bien attention à l'alerte.
Voilà. Donc du coup, Logan, réalisé par James Mangold, qui s'était déjà occupé de l'épisode du second opus sur Wolverine, le combat de l'immortel en français.
Ça s'appelait vraiment comme ça, le combat de l'immortel.
Ouais, j'ai pas compris pourquoi. Je sais, c'est
je me rappelle même pas du nom,
en fait. The Wolverine.
C'est vrai?
Ouais. The Wolverine.
Juste The Wolverine.
Juste The Wolverine.
Ok.
Donc, l'histoire, nous sommes en 2029 aux États-Unis. Donc, Wolverine, alias Logan, alias James Ouellette, travaille désormais comme chauffeur de limousine privé pour se faire un peu d'argent. Il a avec lui donc Charles Xavier, qui est maintenant vieux, très vieux, il a plus de 90 ans. Logan, lui aussi, est en train de vieillir. Ses pouvoirs s'estompent, en fait, concrètement.
En gros, il est, enfin, pour vraiment pour résumer, hein, pour pas rentrer dans les détails, mais c'est un, ouais, on peut dire que c'est un Logan vieux, fatigué.
Voilà.
Il est fatigué.
Le terme.
Et voilà, qui essaye de passer inaperçu et de se faire de l'argent pour.
Voilà, il va croiser quelqu'un qui va lui demander son aide et ça va l'embarquer dans toute une histoire,
dans l'histoire,
dans laquelle on rentrera pas.
Non.
Pas pour
même
le moment,
si
pas pour
personnellement, je l'ai trouvé un peu basique, cette histoire.
Oui, bon, le film est vendu comme un road movie, très clairement, dans ses bandes-annonces. On a
je ne trouvais pas que c'était très clairement vendu dans la première bande-annonce.
Non, je suis d'accord, c'est pas forcément vendu dans la première. Toi et moi, on est quand même un petit peu, on va dire, on n'est pas hyper optimiste, mais...
Vous avez été influencé éventuellement
par
le fait d'avoir lu Holman
Nous,
Logan.
On a lu ce bouquin, donc on a un a priori, on a une certaine idée d'une histoire que devrait être ce film.
Voilà.
Et ce film a clairement, on va pas dire que c'est Holman Logan, mais il a clairement été dit que, à la manière d'un Holman Logan, c'est sa dernière histoire. C'est donc... nous, on est influencé par ça. Et c'est vrai qu'on y a vu les choses qu'on voulait voir, que ce soit dans le film ou dans le trailer. Donc voilà, c'est bien qu'on ait cet autre avis grâce à Travis, qui lui
Travis.
N'a pas lu le bouquin ou qui ne sait rien, on lui a rien dit sur les bouquins.
Pour le coup, j'étais même complètement vierge, si je puis dire, en Wolverine.
C'est-à-dire
que je n'avais vu aucun film X-Men en entier.
Ouais.
Ça ne m'attire pas à la base du tout.
Ouais.
Et aucun film Wolverine. Et je n'ai pas lu les comics non plus.
Ouais.
Mais en revanche, la bande-annonce m'avait complètement captivé et séduit pour ce ton, cette ambiance, ces images, ces petites brides de combat qui sont montrées. Ça m'avait vraiment donné envie de voir le
résultat final.
Ce film, exactement.
Donc en gros, à la limite, on pourrait donner un peu nos avis respectifs sans rentrer trop dans le détail de l'histoire pour ensuite le développer plus tard. Donc... Travis, toi, tu as déjà plus ou moins annoncé que tu n'avais pas retrouvé ce que tu avais vu dans la bande-annonce.
Exactement, la bande-annonce, il y avait un petit côté film noir, un petit côté mélancolique, et avec une ambiance vraiment particulière qui se retrouve dans le film, mais pas avec la même intensité, pas aussi poussée, j'ai trouvé. Ça m'a un petit peu déçu à ce niveau-là. Ça m'a déçu aussi sur d'autres points. Ça reste un bon film, j'ai passé un bon moment. Mais je me suis un peu ennuyé par moment, pour être un peu sévère, mais un peu honnête aussi, même très honnête. Je me suis ennuyé, j'ai trouvé qu'il était trop long, vraiment trop long. J'ai trouvé trop long par moment. Alors, je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup de rythme dans ce qu'il regarde, c'est l'effet série télé aussi, pour le coup.
Tout à fait.
C'est rare les séries qui prennent leur temps.
J'ai besoin de
ça, mais...
Si tu nous écoutes.
Non, je ne suis pas d'accord, mais c'est un autre débat.
C'est un autre débat.
C'est un autre débat qui
je pense arrivera à un moment ou à un autre.
Qui pourrait être très animé aussi.
On va le mettre sur la table.
Ouais. Mais pour le coup, voilà, les séries, c'est vraiment un très gros rythme. Et pour le coup, il y a même des séries qui me déçoivent un peu parce qu'elles ne sont pas assez rythmées. Donc je suis vraiment très demandeur à ce niveau-là. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment trop de temps mort et que le scénario derrière ne suivait pas forcément que... Je dis beaucoup de choses en un coup, mais après vous me répondrez. L'aspect road movie que j'avais pas du tout envisagé à partir de la bande-annonce, il m'a un petit peu déçu parce que j'avais l'impression qu'on emmenait les personnages du point A au point B au point C et que le scénario avait été écrit pour faire en sorte de les emmener à ces différents points plutôt qu'autre chose.
Il y a des chances.
Le scénario dictait pas les événements, mais que c'était qu'il était fait pour poursuivre toutes ces étapes et ça m'a un petit peu pas dérangé pour le coup, mais c'est l'accumulation de toutes ces petites choses qui ont fait que j'ai été assez déçu. Je suis déçu parce que j'avais beaucoup d'attentes encore une fois et après j'ai pas cet attachement au personnage de Wolverine que vous pouvez avoir et que beaucoup de gens ont.
Oui.
Et globalement les critiques sont très bonnes de ce film, même en sortant de la salle ou dans les journaux, etc. Il y a des très bonnes critiques. Mais personnellement, voilà, j'en attendais beaucoup plus et je suis un peu déçu.
Ouais. Tu comprends, ouais, je comprends. Mm. Moi, pour ma part, j'ai passé un très bon moment. J'ai vraiment passé un très bon moment. Je suis d'accord avec toi sur cet aspect un peu de road movie où peut-être que l'histoire a été souvent... certains choix ont été pris pour convenir, pour soutenir cet esprit road movie, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit un road movie, donc on va les faire ci, ça ou quoi. Je suis assez d'accord. Je suis d'accord aussi sur le fait qu'il est peut-être dans sa globalité un peu long. J'ai pas ressenti, moi, pour ma part, de longueur dans le film, mais je me suis retrouvé de temps en temps à me dire, ouais, il continue quand même encore le film. Enfin, je veux dire, tu sens quand même un petit peu le temps passer. Je me suis pas ennuyé ou quoi que ce soit, mais je me suis dit, ouais, il les fait quand même ces 2h20, hein, et on les sent passer. Hein. C'est pas le genre de film où on sort de là en se disant, déjà, j'en veux plus, quoi. Mm-hmm. On le sent passer. Mais après, voilà, je me suis vraiment bien éclaté. J'ai vraiment apprécié. Je pense que ce que j'ai vraiment le plus apprécié, c'est l'effet Deadpool. Encore une fois, je veux dire, pour ceux qui apprécient ce film et pour ceux qui vont apprécier ce genre de film, faut remercier l'audacité d'un Deadpool de nous permettre maintenant de voir à l'écran des films de super-héros de ce type-là.
Ouais.
Je suis désolé, un Wolverine qui maintenant, on va dire, utilise des gros mots. Hein. Je veux dire, il y a des fucks à tire l'arigot. Hein. Il y en a tout le temps.
Que Wolverine, que Wolverine balance des fucks, ok.
Oui, oui.
Que d'autres personnages qu'on
voilà.
n'entend pas
mais
forcément.
C'est
ça,
c'est,
voilà.
c'est donc il y a des insanités, il y a.
Ah oui, oui.
La violence, et ça, c'est un très bon point.
Et la violence. Exactement.
J'ai pas vu les autres films, mais je me doutais que Wolverine, il était pas hyper.
Dans
les autres, il est castré.
Dans les autres, voilà.
Ouais. C'est un chaton castré.
Voilà. Dans les autres, tu vois des griffes sortir, tu les vois. Plus ou moins
sans
rentrer
dans
un personnage,
dans un
mais
pas une goutte de sang,
pas d'effusion de sang et pas à des endroits qui donneraient vraiment des morceaux de viande dégueulasses, quoi. Enfin, c'est toujours en pleine poitrine ou là où il n'y a pas de conséquences au niveau visuel. Bon, là, ça
tandis
charcute,
que là, c'est
quoi.
Le rayon,
charcute,
c'est le rayon boucherie d'Auchan,
ça charcute.
Ouais.
Vraiment,
c'était plutôt sympathique.
Ça, c'est génial. C'est comme ça qu'on devrait voir, du moins, ce Logan-là. Il y a des histoires dans les comics où c'est pas dégueulasse, c'est fait pour un public large, mais il y a des histoires qui le sont.
Oui, oui.
Et cette histoire-là, qui est relatée ici dans ce film, elle a la nécessité d'être racontée comme ça. Ça a été fait, ça a été choisi d'être fait comme ça, et je suis content que ça ait pu aboutir. Encore une fois, je pense grâce à un Deadpool.
Ouais.
Je pense que ce film-là, il y a 5 ou ne serait-ce que 2-3 ans, il n'aurait pas été possible, je pense. Ou il n'aurait pas été fait comme ça. Il aurait été édulcoré, il aurait été plat, il aurait été comme ceux qu'on a vus jusqu'à présent. Donc, à ce niveau-là, moi, je suis assez content. Vraiment, ça fait plaisir de voir ça. À plusieurs moments dans le film, je me suis vu sourire pour me dire « Génial, ils le font de la bonne manière, quoi. C'est comme ça que ça devrait se passer, c'est ça qu'ils devraient dire, c'est comme ça qu'ils devraient réagir.
Ouais, »
Je me suis tourné vers toi, je t'ai vu aussi rigoler.
On rigole pas mal, ouais.
Au même moment, se dire « Fait plaisir de voir un Wolverine comme ça. » Donc voilà, il y a plein de choses qui m'ont plu, plein de petites références. Je pense qu'on en parlera après dans la partie spoil. Y a plein de références à Oldman Logan. Donc voilà, sur ça aussi je suis content parce que je m'attendais à ce qu'il y en ait beaucoup moins que ce qu'il y en a eu au final. Les petites références aux comics aussi.
Il y a un aspect méta,
des choses qu'on voit un peu.
Il y a un aspect méta qui est beaucoup plus. Qui est enfin exploité, quoi.
Un peu assumé.
C'est la première fois qu'il est assumé.
Voilà,
c'est un film différent.
C'est un film qui est fait, à mon avis, pour les fans de Wolverine. Peut-être un peu trop pour les fans de Wolverine.
Oui,
peut-être.
À mon avis. Toutes les allusions, tout le traitement du personnage, on sent aussi que l'acteur a eu son mot à dire assez fortement sur la façon...
Ça fait 17 ans qu'il fait ça. Hein.
17
ans.
C'est son premier film, c'est le rôle de sa vie.
Et c'est tout à fait normal. Mais du coup, ça se sent et peut-être qu'ils sont un petit peu tombés dans cet excès-là de mon point de vue, parce que c'est un film qui a des moments un petit peu touchants et pour le coup, j'étais touché une fois peut-être, on en parlera dans la partie spoil, mais c'est tout et encore pas autant que j'aurais dû l'être, je pense. Donc voilà. Bon, c'est aussi normal que j'ai été moins touché, mais
on sent
vraiment le film fait pour les fans de Wolverine. Et c'est bien et c'est pas bien. Bon,
Eddie Boy, toi,
c'est mon avis. Moi, j'ai passé un bon moment. Pas un très bon moment. J'ai passé un bon moment. Mais mon avis final est un petit peu mitigé, c'est-à-dire que moi j'ai grandi avec Hugh Jackman en Wolverine, donc bon, sans spoiler puisque ça a été annoncé par les acteurs, c'est ce film c'est la fin, comment dire, de Hugh Jackman en
Wolverine.
En Wolverine.
Hein.
Il a annoncé, il a dit voilà,
il a dit qu'il n'en ferait plus, hein.
C'est ma dernière fois en tant que Wolverine, j'arrête, j'ai rempli mon contrat. Même si, bon, apparemment, il y a quelques jours, il fait une déclaration comme quoi il aimerait bien revenir, mais dans le cadre d'un film avec les Avengers de Marvel Studios, le MCU.
Ce qu'on ne verra jamais, mais ça fait plaisir de l'entendre dire ça.
Voilà. Et donc, voilà. Je partage l'avis de Travis sur le fait que le film est parfois un peu long. Il y a des petits moments de ventre mou où on se dit, tiens, c'est bizarre cette scène, je la verrais bien à la fin. Mais en fait, non, ça continue derrière, ça reprend. Et pareil, comme tu dis, cette façon d'amener les personnages d'un point A à un point B, un point B, un point C, un point C, un point D, qui n'est pas, enfin, qui fait pas trop naturel, quoi, qui fait imposé par le scénario,
ouais,
imposé par
ça,
le script,
hein.
Pour avoir ton quota A de scène d'action, B de scène d'émotion, C de scène rigolote. Enfin, tu as. Voilà, on a l'impression qu'il y a une liste, un quota derrière qui est coché petit à petit.
Ouais,
ça c'est fait, ça on l'a fait. Après, il y a énormément de choses qui sont bien. Il y a des retournements de caractérisation de personnages. Le personnage de Charles-Xavier qui n'a oublié le professeur X que vous voyez dans les précédents films. Il a quasiment plus rien à voir, quoi. C'est un vieux maintenant. Enfin, on en parlera dans la partie spoiler, mais... Quoi d'autre le truc qui m'a un peu dérangé dans le film, c'est Wolverine. Il est fatigué, il en prend plein la gueule.
Est-ce qu'on peut dire qu'on va passer à la partie spoiler en
Ouais, j'ai l'impression que tu bascules.
On va attaquer la partie spoiler maintenant.
Jamais vous ne l'avez pas vu, coupez maintenant.
Ouais,
parce que je pense
on ne dira plus rien d'intéressant sur autre chose.
Ou alors, à la limite, tu pourras mettre dans le commentaire à partir de quelle minute
voilà,
revenir.
Voilà,
là, on va commencer à spoiler.
On va spoiler. Donc, bon, avant de spoiler, on reprend juste le synopsis de base. Donc, voilà, il n'y a plus de mutants sur Terre depuis 25 ans et Logan, en fait, est en train de perdre ses pouvoirs. Concrètement, il ne guérit plus comme avant. Il a du mal à sortir ses griffes, quoi. De la part du Wolverine, c'est quand même quelque chose. Et du coup, il fait office de babysitter, de nounou, d'infirmière pour un Charles-Xavier qui donc à 90 ans a une maladie. On ne sait pas trop ce que c'est jamais trop dit. Enfin, il propose sclérose en plaques, Alzheimer, Parkinson.
Il est malade, quoi.
Il est vieux, il est malade, il n'est pas bien. Et du coup, ça affecte grandement ses pouvoirs. C'est-à-dire qu'il a des crises qui font que, du coup, il déclenche une énorme vague psychique qui affecte tout le monde dans un certain rayon et qui peut conduire à la mort de certains personnages. Donc pour ça, Logan, qui vit à la frontière avec le Mexique, cache Charles-Xavier avec l'aide de Caliban, donc un autre personnage des X-Men, qui est un pisteur mutant qui peut sentir le gène, sentir et traquer les mutants grâce à leur gène X. Et un beau jour, donc, il est contacté par une infirmière qui travaille dans un centre de recherche génétique qui fabrique des mutants. Bon, grosso modo, voilà, c'est tout simplement ça. Quoi.
Une grosse corporation
qui
est méchante et qui fait des choses méchantes.
Très
et cliché. Qui a un monstre qui libère une sorte de monstre pour eux et qui veut récupérer, etc. Bon, là, pour le coup, en termes de scénario, c'était aussi un petit peu convenu à mon goût.
Oui, bon, on le voit venir, quoi. Mais,
ouais. Mais c'est tout le temps ça, les films de super-héros en ce moment. C'est tout le temps
des méchants
Stranger Things, c'est quoi? C'est encore une fois, il y a une grosse corporation qui fait une erreur dans une expérience, enfin, qui libère un truc qu'elle devrait pas libérer, etc.
Ouais, c'est un poncif facile, mais c'est un poncif qui marche, quoi.
Pour toi peut-être, pour moi je commence vraiment à m'enlacer de ces mêmes mécaniques de scénario. Ça m'embête. Après, c'était peut-être comme ça dans les comics, je sais pas.
Il n'y a pas clairement une ligne directrice de comics. Enfin, après, je connais pas.
Pour le personnage de Wolverine, c'est pas spécialement une. Enfin,
ouais.
C'est plus l'armée, quoi. Avec le programme Weapon X.
C'est que là, moi, je trouve que le concept de base, même si tu peux trouver qu'il est convenu parce que souvent utilisé, il s'applique bien dans ce cas-là. Parce que, reprenant le contexte, t'as une société donc, qui vit avec des mutants.
Et les mutants ont les pleins pouvoirs, c'est presque que, comme des dieux, quoi. Hein. Mmh. Ça a été le sujet dans plein des différents films des X-Men, c'est comment est-ce que nous, comment humains, on peut vivre face gérer, à vous, ouais. quoi.
Voilà.
Et ouais. ça, après, dans les autres films, c'était souvent pris du côté plutôt de la haine raciale,
oui.
hein, avec les bah, parallèles de différences de race et tout ça. Bon. Mais là, dans celui-là, c'est plus pris d'un côté militaire et politique. Qui dit quelle est notre réponse à ça? Est-ce que nous on doit pas avoir nos propres mutants? Mais on peut pas avoir nos propres mutants parce qu'on peut pas les contrôler. Comment on fait pour les contrôler? On les fabrique. Donc moi pour une fois c'est clair, c'est pas mal amené. On les fabrique, on les a fabriqués trop normaux, on va dire entre guillemets, et ouais. on a besoin de même mieux, on a besoin de quelque chose qui réfléchit pas, qui pense pas. Bon, bah, ce qu'on a fait, on le vire et on passe à l'étape d'après. À l'étape mais ça couille. Il y a quelque chose qui se passe. Et
moi, pour une fois, ça passe. Voilà. Bon, chacun son avis, aucun souci. Mm. Pendant qu'on y est, on peut parler du Wolverine.
Du comics
non, du Wolverine pas content.
Ah, le X-24, oui.
Le méchant.
X-24.
Encore une fois, un doppelganger en méchant.
Ouais, là, moi, ouais. c'est pareil.
Ça m'a vraiment déçu.
Je suis pas emballé sur ça.
Heureusement, Jackman, il le joue plutôt bien à la colère. Bon, il joue bien la colère.
Ouais, super. Il sait bien s'énerver.
Mais franchement, j'aurais préféré un vrai méchant. Et encore une fois, un film de super-héros avec un méchant pourri. J'en ai marre, quoi. Il y a pareil. Deux, peut-être, du côté DC, on en a déjà parlé. Peut-être un côté Marvel que je connais pas parce que je vois pas qui c'est, mais c'est vraiment le problème de tous ces films-là.
Des méchants génériques.
Ils ont pas des méchants.
Lambda.
Voilà. Qui au final, ça gâche un peu le film parce que le suspense, tout la tension, elle doit venir du méchant. C'est lui qui doit créer ça. Et là, on se retrouve avec. Alors, on a le soldat qui est plutôt sympa, l'acteur a l'air charismatique
ouais.
et tout.
Ouais, oui, Donald Pierce.
Ouais. ouais Donald mais Pierce, au final, bon, il est bon. Peu utile, je trouve.
Donc, dès qu'on sait pour qui il travaille, d'un seul coup,
devient le sbire.
C'est un soldat, c'est pas un méchant ouais. emblématique, c'est juste un.
Et du coup, son rôle de méchant est transféré sur le X-24, qui est un
d'où encore une fois, le on voit bien que le film est vraiment que centré sur Wolverine et presque cette autre intrigue
Le choix, effectivement, est presque justifié d'avoir un autre Wolverine, sauf que ça apporte rien de concret.
Oui.
C'est un moyen.
Et puis, c'est pas très crédible d'avoir choisi un Wolverine, quitte à faire un autre.
Je pense qu'ils l'ont fait un petit peu pour créer aussi cette image de la dualité entre le Wolverine vieux et le Wolverine dans la fleur de l'âge, quoi. Comment il était, comment il aurait pu être s'il n'avait pas son côté humain et tout ça. Donc, bon.
Ouais.
Je sais pas, il y a un parallèle, mais très mal amené parce que. Il n'est pas assumé, je pense pas qu'il ait cherché à faire ça, mais ça crée un peu cette image.
Mmh. Et c'était aussi un point assez décevant.
On sait pas trop ce que c'est quoi. C'est une quête en fait. Quand il se bat contre lui, c'est une façon de trouver une rédemption, parce que finalement à la fin c'est ça. Il affronte son lui passé qui était violent, qui a tué, qui était une arme au service de l'armée. Enfin voilà. Et donc à la fin, il se fait buter.
Ouais.
Il meurt. Voilà,
si c'est une métaphore, si c'est ce genre de choses, c'est pas vraiment tout en finesse.
Il meurt en affrontant son passé, c'est pas très fin. J'ai pas trouvé de. Comment dire. Moi je voulais qu'il meure, Wolverine. Je voulais que Hugh Jackman dise adieu à son personnage en le faisant mourir, mais je voulais qu'il y ait une vraie raison derrière. Là, il n'y a pas de raison. Enfin, il veut protéger. Donc, les gamins qui se sont échappés de cette fameuse entreprise. Une en particulier, donc le numéro
X23,
Laura, qui est son clone féminin. Enfin, c'est son clone féminin.
C'est sa fille.
Dans le film,
c'est ce lien qui est intéressant et qui m'a apporté un petit peu d'émotion à ce niveau-là. C'est le lien de parenté, de paternité, qui était intéressant parce que l'actrice, d'ailleurs, est excellente.
Voilà.
Heureusement qu'elle est là et qu'ils ne sont pas trompés, voire qu'ils aient pas pris quelqu'un d'un petit peu moins bien, parce que là c'est tout le film qui à mon avis aurait été beaucoup moins bien. Elle est excellente, que ce soit dans les scènes de combat, dans l'attitude, elle dit rien pendant les trois quarts du film, mais elle le fait très bien. Et quand elle parle, bon là, elle a une petite voix un petit peu dérangeante. On va pas critiquer, mais bon. Mais pour le coup, elle est très très bien, elle est super. Et elle fait très bien passer aussi le rapport de paternité avec un point d'interrogation quelque part,
oui,
qu'il y a entre elle et Wolverine.
Voilà, il se cherche tout le long du film, parce que ça aussi c'est un petit peu bizarre et c'est pas forcément très bien amené, notamment à la fin. C'est, voilà, Wolverine, on lui annonce, bah écoute, c'est ta fille, grosso modo, c'est ton clone, mais c'est aussi ta fille. Et lui, clairement, il en a un peu rien à battre, quoi. Au début, il pense juste à sauver Charles, à sauver Caliban, ils veulent se barrer. Et bon, tout au long du film, finalement, se développe une certaine relation entre les deux personnages. Mais on n'est jamais trop sûr, tu vois. Il n'a pas vraiment de moment de tendresse avec elle, ou
non,
il se contente de lui dire merci quand elle lui sauve la vie parce qu'il est massacré, parce qu'il s'est fait démolir.
Pour le coup, je trouve que c'était pas trop mal géré, c'est bien géré. Parce que ça s'est amené doucement.
Ça serait tombé dans le cucu quand même si ça avait été fait différemment.
Peut-être. Mais alors, à la fin, alors que elle lui a jamais montré de moments de tendresse, et lui non plus, pourquoi à la fin, quand il est en train de crever empalé sur son arbre mort, pourquoi elle arrive, elle fait papa, elle l'appelle papa, quoi. À aucun moment du film elle l'appelle papa, il y a rien qui
dit ça. Il y a un autre moment,
c'est quand même son moment,
il y a un autre moment,
il meurt, c'est
ouais,
mais à la limite
il y a une résonance particulière qu'il entende ça à ce moment là Et d'ailleurs, il rajoute, c'est ça.
Mais on ne sait pas ce qu'il devait ressentir.
Si,
voilà,
si, on le sait. C'est ce que Charles lui a dit beaucoup plus tôt.
Dans la maison.
Il lui dit, t'aurais dû vivre une vie normale. Il lui fait comprendre que c'est ça la vraie vie. Se mettre autour d'une table, passer du temps avec des gens qu'on a envie, profiter des petites choses. Et c'est ce qu'il reproche à Wolverine. Et Wolverine est ce personnage qui a toujours fui ça, toujours fui la possibilité d'être heureux, toujours fui la possibilité d'être avec quelqu'un.
Oui, ça je suis d'accord.
Donc tu vois ce que je veux dire, c'est un animal au fond, hein. C'est un animal solitaire. Et X-23, dans un sens, c'est comme lui, puisque c'est sa fille. Donc elle a les mêmes émotions, elle gueule pareil quand elle tue quelqu'un, elle est animale aussi. Mais là, à cette fin, c'est les deux qui se retrouvent. Et il y a une autre scène qui est super puissante aussi, un peu de temps avant, quand ils sont dans ce campement, et où elle va le voir, et là où il dit toutes les personnes auxquelles je tiens, il leur arrive quelque chose, et elle s'en va en lui disant il m'arrivera rien, puisque tu te fous de moi, en fait. Et là c'est fort, c'est là où le moment où peut-être un lien un petit peu plus fort se crée entre deux, parce que lui il réalise que non, je tiens à toi, et c'est parce que je tiens à toi que je te dis qu'il va t'arriver quelque chose, et elle qui fait l'ado rebelle, même si elle n'est pas encore ado, qui dit ouais, bah de toute façon tu m'aimes pas, machin, ou quoi, la gote profonde. Hein.
Ouais.
Et moi je trouve quand même que c'est approprié pour des personnages Wolverine, aussi bien elle que lui, parce que c'est des personnages qui ont beaucoup de mal à exprimer leurs émotions. Et,
ouais, mais alors à ce moment-là, j'aurais préféré qu'il le montre pas de cette façon, quoi, à la fin, tu vois, qu'elle pleure, ok, mais qu'elle dise pas papa. En fait, moi c'est le papa qui m'a le papa m'a tué, quoi.
Papa,
non ça va,
daddy
quoi. Vraiment daddy, enfin tu chiales, tu le tiens dans tes bras, lui il est là, ok, il te tient la main et il te dit ah, c'est ça que je devais ressentir. Même si là, tu vois, même ça, enfin c'est pas vraiment un truc qu'il recherchait, finalement, ressentir ça. Il le ressent, ok, ah, c'était ça ce dont parlait Charles. D'accord, ok, une famille, je suis sur le point de crever et je ressens enfin le bonheur de éventuellement d'avoir une famille. Enfin, je sais pas, je trouve pas ça très bien amené, c'est dommage. C'est dommage.
Pendant qu'on est sur la fin, et on va arriver aussi à la fin du podcast pour une raison de timing. Mais ce qui m'a choqué à la fin, c'est que les petits qui ont tous des pouvoirs, dont certains assez puissants,
oui, mortels même,
ne s'en servent pas.
Ou alors juste vers la fin. Ils se mettent tous à fuir.
Ouais.
Et franchement, ils sont 10. Ils sont au moins 10. Ils sont 10 mutants avec des sacrés pouvoirs. Ils pourraient tout ravager en quelques minutes, mais sans trop se creuser la tête. Et là, non, ils partent, ils courent. Il y en a un qui l'utilise quand il se fait rattraper, etc.
Ouais.
C'était décevant. Bon, un peu pas très crédible, je trouve. Et en plus, décevant parce qu'on attend ce gros final avec tous ces mutants. Parce qu'en termes de pouvoir, il n'y a pas eu, à part Wolverine et X-23, il n'y en a pas trop eu.
Non.
Alors après, ce n'est pas dans l'ADN du film, vraiment, encore que. Mais voilà, j'étais un peu déçu à ce niveau-là que ces enfants, qui sont au final la finalité du film, c'est leur liberté, qu'on ne les voit pas un peu plus de leur côté mutant.
Alors ouais, c'est vrai que finalement, on ne voit pas trop leur pouvoir mis en œuvre dans le film, mais je pense que c'est surtout à mon avis, parce que ce n'est pas un film de super-héros. Moi, tel que je le vois, finalement, Logan, c'est un road trip. C'est un film sur la déchéance d'un ancien super-héros qui, maintenant, est juste un mec avec des pouvoirs. C'est pas un super-héros. Et Charles non plus. Et leurs ennemis ne sont pas des super-vilains. Ils ont pas de pouvoir. Ils ont juste des bras cybernétiques, des jambes cybernétiques. Enfin.
C'est vrai qu'on est dans un univers qui se passe donc en 2029, c'est ça ?
2029.
Donc lointain où les héros ont disparu depuis un petit moment. Quoi.
Voilà,
donc,
c'est ça.
On est dans un monde qui se souvient d'eux, qui fait référence et qui voit ça comme des icônes ou comme le nôtre ou comme des stars de cinéma presque. Hein.
C'est ça.
Ah oui, des choses qu'on a vues à la télé, mais plus dans le quotidien de on va sauver telle ou telle personne. Ou,
voilà,
voilà. Donc, oui, pourquoi pas. Mais après, c'est vrai, moi je trouve que je l'ai pensé au moment de la scène de me dire pourquoi ils n'utilisent pas un peu plus leur pouvoir. Après, j'ai repensé juste, c'est pas une vraie justification, mais j'ai repensé au fait que lorsqu'on a vu la vidéo de cette infirmière qui essayait de les sauver, elle mentionnait le fait que certains d'entre eux, de ces enfants, ne voulaient pas utiliser leur pouvoir, ne voulaient pas l'utiliser pour faire du mal. Donc,
oui.
Bon, ça va chercher loin de dire que c'est pour ça qu'ils l'utilisent pas à la fin, parce qu'ils essayent de se sauver. Mais bon, peut-être que c'est vrai que c'est des enfants qui ont pas envie de trop utiliser leur pouvoir, qui ont peur, qui sont encore trop jeunes, qui ont envie de fuir, et qui réalisent peut-être pas encore qu'ils sont des machines à tuer.
Et c'est vrai que X-23 avait beaucoup de mal à utiliser ses pouvoirs.
Bah oui, mais elle, elle est bestiale.
C'est
la fille de Wolverine.
Ça envoie du lourd, quoi. C'est vrai que
c'est
ça, elle envoie du pâté.
Ah bon, voilà, je dis pas ça pour justifier quoi que ce soit, parce que moi-même, j'ai un peu pensé ça en me disant, tiens, c'est dommage, ils pourraient tous se retourner et se rendre compte que bah, tous ensemble, ils sont peut-être plus forts que toute cette armée. Mm-hmm. Ils le font un petit peu à la fin. Mais bon,
ouais,
s'ils le faisaient dès le début, il y a pas de film, il y a pas d'intrigue, il y a pas de remise en question, ils sont trop forts et ils ont gagné, donc bon, voilà, c'est un peu les.
Il y a peut-être moyen de quand même déclencher ça plus rapidement,
plus tôt, ouais.
Avec en mettant plus de soldats ou en armant mieux les soldats, je sais pas.
Oui, en leur donnant peut-être.
Ça aurait fait grandir l'enjeu et grandir cette scène finale, enfin cet affrontement final qui méritait à mon avis d'être un petit peu plus ambitieux.
Ouais, ouais,
c'est pas faux. Ça se tient.
C'est intéressant. Ouais.
Donc voilà, bon bah du coup une conclusion chacun sur le film.
Allez.
Peut-être Travis, ouais. Commençons par
ça. Ça va tenir en 3-4 mots. Logan, un film pas super.
Bon, c'est expéditif.
C'est sévère. T'as pas aimé, t'as le droit, mais c'est sévère.
Non, j'exagère un petit peu. C'est vrai que c'est pas un mauvais film, c'était agréable à regarder. C'était un petit peu long, encore une fois,
ouais.
Mais je... Voilà, ça résume un petit peu ma pensée quand même. C'était par rapport à mes attentes, qui étaient peut-être démesurées, mais je pense pas, parce que la bande-annonce était... très bien faite, et après il faut assumer derrière quand on fait une très belle bande-annonce. Donc voilà, c'est mon avis, et il faut aussi prendre en compte le fait que je connaissais pas bien
Wolverine,
etc.
Voilà, t'es pas aussi impliqué que je ne peux l'être ou Addy Boy non plus.
Je peux l'être aussi, ouais.
Moi, pour ma part, ce que je retiens de ce film, c'est on en a parlé quelques fois, on a dit que c'est quand même un film qui a pris le parti dès le départ d'être un peu comme Old Man Logan,
oui.
Donc le fameux comics. Voilà, si moi je dois résumer, c'est pas Old Man Logan, mais on sent que c'est quelqu'un qui aime Old Man Logan, qui a essayé d'y incorporer ce qu'il pouvait et de prendre les éléments qu'il pouvait de ce bouquin pour les mettre dedans. Moi, j'y ai retrouvé certaines choses de ce bouquin,
oui.
et j'en profite aussi pour les amateurs de comics. Si vous l'avez pas lu et que vous aimez Wolverine, il faut absolument lire ce bouquin.
Définitivement, ouais.
C'est vraiment l'une des meilleures adaptations, l'une des meilleures histoires qu'on pourra lire dans l'univers Marvel de ce personnage. Donc, je le conseille à tout le monde.
Mmh. Moi, du coup, sur le film, avis mitigé, mais positif quand même. J'encourage les gens à aller le voir parce que c'est un film... C'est vendu comme un film de super-héros, même si pour moi, c'en est pas un. Mais dans tous les cas, c'est vraiment un film différent. C'est quelque chose qu'on n'a encore jamais vu traité de cette façon au cinéma. Ma déception tient plus au fait que j'étais très attaché au personnage de Wolverine. C'est le premier X-Men qui est sorti en 2000. C'est le film qui a lancé en fait la mode des films de super-héros, concrètement. Et du coup, voilà, ça fait 17 ans que j'ai grandi avec Hugh Jackman à ses côtés.
Tu vois, même sa barbe.
C'était très intense, j'essaie d'avoir sa barbe. Non, mais voilà, le fait que ce soit une lettre d'adieu à ce personnage, et je pense que ça est définitif, ça rentre énormément en ligne de compte de ma déception. Je fais le signe parenthèse avec mes doigts.
Guillemets.
guillemets.
Parenthèse.
Attends, je suis,
tu pourrais faire. Hein.
Je suis à fond. Et donc voilà, j'encourage quand même les gens à aller le voir parce que c'est un film différent. C'est un film profond avec des personnages qui sont très bien exploités. Et puis ça devrait plaire à la majorité des gens, dans tous les cas. Donc voilà.
C'est vrai. Les critiques sont encore une fois très bonnes. Je vois même passer des avis sur Twitter qui sont très élogieux.
Très élogieux.
Oui, très élogieux. Ouais,
ouais. Je prends toujours Twitter avec des pincettes.
Oui, bah, c'est toujours l'avis d'une ou deux personnes, mais après, bah, voilà, ça m'a étonné un petit peu, même que ce soit si élogieux que ça, mais pourquoi pas. Et tant mieux.
Parce que voilà, moi je dis, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu, quoi, finalement, des super-héros traités comme ça. Voilà.
Ouais.
Donc voilà, c'était notre avis sur Logan. Et du coup, ça va marquer la fin de ce quatrième épisode hein, du Forum Cast. Ouais. Donc, on vous remercie de nous suivre. On tient particulièrement à vos commentaires, à tout ce que vous pouvez dire ouais. sur.
Bah, d'ailleurs, si des personnes vont voir Logan, ce serait bien d'avoir leur avis aussi sur le site ou suite à ce podcast, savoir un peu ce que les gens en ont pensé.
N'hésitez pas à nous lâcher un petit com, ça fait toujours plaisir. Sur ce, s'il y a des sujets que vous voudriez que l'on aborde aussi, n'hésitez pas à en parler. Hein, c'est voilà. Sur iTunes.
C'est vrai qu'on est sur iTunes et je l'avais même pas mentionné sur le site. Ouais. Voilà. Honte à moi. Et donc on est sur iTunes. Recherchez Forum dans les podcasts.
Forum.com, je crois.
Ouais. Ou Forum avec deux O, ça devrait passer. Mais bon, voilà. En tout cas, on est sur iTunes. Vous pouvez vous abonner, ça nous fera plaisir voilà. Et ça vous permettra d'être averti dès qu'on a un nouveau podcast
tout
en ligne.
Fait.
Nous mettre des petites étoiles. Parce que ça améliore le référencement. Donc voilà, si jamais vous faites un tour sur iTunes, n'hésitez pas à nous lâcher des étoiles. Donc voilà, c'est officiellement la fin de ce quatrième épisode du Forumcast. On vous donne rendez-vous dans deux semaines.
Le
peut-être
plus vite possible. Le but c'était d'être hebdomadaire, on a un petit peu de mal. On essaie de faire ça toutes les semaines et demie, donc voilà. On en parlera série, on en a quelques-unes en stock.
On a quelques séries. Voilà.
Santa Clarita, c'est plusieurs fois qu'on doit en parler.
Ouais,
c'est exact.
On en parlera tôt ou tard.
Ce serait bien d'y arriver.
Et toi, tu regardes VOA, donc on va en reparler, etc.
Oui. Ouais,
et puis, on parlera peut-être un peu de jeux vidéo aussi. Il y a la Switch qui arrive.
Il y a beaucoup de choses.
On va peut-être proposer des
semaine,
choses un petit peu différentes aussi au-delà du podcast. On verra. Je ne m'avance pas trop parce que c'est compliqué, mais on va essayer.
Voilà. Eh bien, écoutez, je pense que tout a été dit. On vous remercie, on vous fait de gros bisous et on vous dit à très bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.